Vous écoutez Des femmes et un Dieu, le podcast où des femmes chrétiennes parlent de leurs expériences de foi.
Bonsoir Nathalie, merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Des femmes et un Dieu dans le cadre de la saison 3 autour du congrès du MCC dont le thème est « Passeur d'avenir au cœur des transitions ». Alors, est-ce que vous pouvez simplement vous présenter pour nos auditeurs et nos auditrices en quelques mots ?
Oui, bonsoir. Donc, je suis sœur Nathalie Bécard, religieuse Xavière et actuellement en mission à Rome, au Vatican, comme sous-secrétaire du secrétariat général du Synode. Donc, en plein dans cette dynamique actuelle du Synode pour une église synodale, communion, participation, mission. J'ai été nommée en février 2021, donc ça fera bientôt 2 ans.
Qu'est-ce qui vous touche particulièrement dans le thème du congrès « Passeur d'avenir au cœur des transitions » ?
Alors, je dirais deux choses. Je vais commencer par le dernier, au cœur des transitions, parce que je crois qu'on est vraiment en train de… on voit bien qu'on est dans un monde qui change très vite, en train de vivre des passages, dans un temps de transition dans la société, avec aussi beaucoup de crises. Et puis, dans l'Église, on est aussi vraiment dans un temps de transition où on voit à la fois… la fin d'une certaine manière, en tout cas les difficultés d'un système clérical qui explose et en même temps cet appel très fort qu'on vit avec le synode à devenir une église synodale. Et on est dans ce passage. Et c'est vrai que le terme passeur d'avenir, je l'aime bien aussi parce que pendant des années, j'étais dans la pastorale des jeunes de bien des manières et j'avais coutume de présenter aussi notre rôle d'adulte dans l'accompagnement des jeunes comme des passeurs de confiance. Voilà. Et ça m'habite aussi. Je crois que pour être passeur d'avenir, il faut être passeur de confiance. Confiance que la vie continue et qu'elle a un sens.
On va commencer par parler un petit peu de vous. Quelles ont été les grandes étapes de votre parcours spirituel ?
Alors, je dirais, pour faire rapide, j'ai grandi dans une famille catholique. Je suis l'aînée de 5 enfants, de parents assez engagés dans l'Église, qui ont été d'ailleurs aussi très marqués, très engagés au MCC, où ils ont pris des responsabilités. Et ma foi s'est construite à la fois dans une famille, mais dans laquelle j'ai aussi expérimenté au niveau de ma famille large différentes manières de vivre la foi avec des sensibilités différentes. J'ai été aussi très marquée par ma grand-mère, veuve, aussi très engagée dans l'Église, mon parrain qui était prêtre diocésain, prêtre ouvrier et très engagé dans le dialogue interreligieux, une marraine engagée dans l'œcuménisme. Voilà, donc j'ai eu différentes figures qui m'ont marquée et aussi j'ai grandi dans une école catholique, mais peut-être un des lieux qui m'a le plus façonnée, c'est l'expérience du scoutisme, puisque dès l'âge d'à peine 8 ans, je suis rentrée à l'époque chez les Guides de France et jusqu'à prendre des responsabilités comme cheftaine. Donc ça m'a beaucoup façonné cette expérience du scoutisme, la vie avec les autres, la vie en équipe, la vie dans la nature, l'apprentissage des responsabilités. À un moment donné aussi, je me suis engagée quand j'avais 14-15 ans dans le MEJ, le mouvement eucharistique des jeunes, pour approfondir aussi une recherche spirituelle, je dirais. Voilà. Et puis dans mes années d'études, ça a été aussi un nouveau cap. J'étais étudiante à HEC, très engagée dans le club voile. Je naviguais beaucoup. Donc la mer a été pour moi vraiment un lieu fort d'expérience humaine et d'expérience spirituelle. Et puis j'ai creusé la spiritualité ignatienne à travers aussi l'expérience des exercices spirituels. Auquel j'ai commencé à goûter quand j'étais étudiante à HEC avec des week-ends de prière avec des étudiants. Et puis surtout, une grande étape, ça a été à la fin de mes études, avant de commencer à travailler, j'ai souhaité en fait donner un an de ma vie, aller servir quelque part. Et grâce aux jésuites, puisque c'était un jésuite qui était aumônier d'HEC, j'ai été mise en contact avec un collège à Beyrouth, au Liban, et j'ai fait une année de volontariat à Beyrouth, juste au sortir de la guerre dans ce pays très meurtri en 1992-93. J'ai enseigné dans ce collège, j'ai accompagné des équipes MEJ et puis le week-end j'allais m'occuper de réfugiés déplacés à l'intérieur du pays et d'orphelins. Voilà, et c'est vraiment au Liban, en rencontrant ce pays qui avait souffert de la guerre, ces jeunes que je côtoyais, qui avaient grandi dans ces circonstances difficiles, mais en même temps la rencontre d'une église bien vivante et en particulier de religieuses voilà, qui me donnait le témoignage d'une vie heureuse possible à la suite du Christ, que s'est creusée pour moi la question d'un appel à la vie consacrée. Et puis en prenant du recul, en étant loin de mon pays, de tout ce qui m'avait façonné, j'ai réalisé aussi la chance que j'avais eue de grandir dans un pays en paix, d'avoir quand même beaucoup reçu à travers mon éducation, ma formation. Et c'est au Liban que j'ai aussi vécu vraiment ma première retraite de 5 jours d'exercice spirituel, l'accompagnement spirituel avec un jésuite. Donc j'ai creusé une expérience personnelle du Christ, je peux dire, et un ancrage dans la prière quotidienne. Et que j'ai réalisé finalement la grande question qui m'habitait, c'était c'est quoi le sens de la vie finalement. Et là j'ai réalisé que finalement le sens de la vie, c'est aussi de donner ce qu'on a reçu. Et c'est à travers ce chemin-là que s'est creusé pour moi l'appel à la vie consacrée. Je suis rentrée en France, j'ai travaillé 2 ans dans la vie professionnelle dans une petite agence de communication, marketing communication, pour le monde associatif comme consultant. Et c'est durant ces 2 années que j'ai continué mon discernement vocationnel. Et en ayant rencontré l'Exavière, voilà, finalement, j'ai senti que c'était là que le Seigneur m'appelait à le suivre, à donner ma vie à sa suite pour servir les autres. Et voilà, donc ça a été une étape, bien sûr, d'entrer chez l'Exavière. Et puis après, il y a eu toutes les étapes de formation, le postulat, la première année pour découvrir, les 2 ans de noviciat. J'ai prononcé mes premiers vœux en août 98, puis les vœux définitifs en 2005. Voilà, et c'est vrai que quand je me retourne aujourd'hui, jamais j'aurais imaginé avoir la vie que j'ai eue, me retrouver là, voilà, la succession d'appels que j'ai reçus, de missions qui m'ont été confiées, mais qui me font vivre que voilà, donner sa vie à la suite du Christ, c'est une belle aventure. Bien sûr, il y a des moments difficiles, des moments de crise, mais on reçoit beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer. Dans mon parcours, après mes premiers vœux, mon noviciat, j'ai été donc engagée à l'équipe nationale des scouts de France où j'étais responsable du programme Plein Vent au service des jeunes en quartier populaire. Voilà, suite à ça, je suis allée faire mes études de philosophie, théologie, complétées par de la sociologie, donc au Centre Sèvres pendant 4 ans. Et pendant tout ce temps-là, j'avais un engagement important au réseau jeunesse ignatien, qui s'appelle maintenant le réseau Magis, voilà, notamment dans les camps retraite, vie en mer, entre en prière. Et au sortir de mes études, j'ai été appelée à être responsable de l'aumônerie des étudiants de Créteil. Et c'est là que la conférence des évêques m'a appelée, d'abord pour être responsable nationale de la pastorale étudiante, et puis en 2012, donc après mes définitifs, effectivement, j'ai été nommée directrice du service national pour l'évangélisation des jeunes et pour les vocations, donc au niveau de la conférence des évêques. En fait, j'ai terminé ma mission à la conférence des évêques parce qu'on a des mandats, donc c'était prévu comme ça. J'ai terminé ma mission en août 2018. Juste avant la participation à l'Assemblée du Synode des Jeunes en octobre 2018, qui a été pour moi vraiment une expérience formidable qui m'a énormément marquée, transformée. Et j'avais été impliquée dans la préparation pendant 2 ans, mais le fait d'avoir été appelée comme auditrice au Synode, voilà, ça m'a vraiment fait vivre une très belle expérience de synodalité. Suite à ça, j'ai eu quelques mois sabbatiques en Amérique du Nord, dans notre communauté de Toronto, et puis j'ai fait un programme pour des religieux en temps sabbatique à Chicago, et c'était un temps de discernement. Et en fait, avec ma supérieure générale, à ce moment-là, après tout mon parcours pastoral, où j'avais été engagée dans la pastorale des jeunes de bien des manières, et l'expérience du synode des jeunes, j'ai senti l'appel et à retourner faire des études de théologie et à me spécialiser en ecclésiologie, donc c'est toute la réflexion sur l'Église, en menant une recherche sur la synodalité. Et je suis allée faire ça à Boston College, que toute l'année 2021, j'étais à Boston College. Et c'est en rentrant de Boston College à la fin de l'année 2021, que juste après, j'ai été appelée par le pape donc pour cette mission au service du secrétariat du synode, où j'étais déjà, en fait, depuis mai 2019, consultrice, consulteur, ce qu'on appelle consulteur pour le secrétariat du synode, mais qui n'est pas un poste permanent, c'est un peu comme des conseillers. Voilà. Et puis là, j'ai été appelée en février 2021 à prendre cette responsabilité. Et donc, depuis, je suis à Rome pour cette mission, mais qui me fait aussi beaucoup déplacer.
Comment vous vivez le fait que l'Église soit le lieu de votre vie professionnelle et en même temps le lieu de votre engagement spirituel? Comment vous articulez les deux? Est-ce que parfois c'est... la vie pastorale professionnelle met à l'épreuve la vie spirituelle ou inversement, peut-être?
Oui, c'est vrai que c'est particulier et différent. Mais je dirais que quel que soit le lieu, bon, le plus important, et c'est ça aussi qui anime et qui tient notre vocation de Xavier, c'est la vie spirituelle, la vie de prière personnelle, communautaire. C'est cet ancrage-là et cette suite du Christ qui sous-tend en fait derrière notre action apostolique. Hein. Donc on dit d'ailleurs qu'on est à la fois contemplative et active. Après, c'est vrai que les conditions de travail peuvent être différentes. C'est vrai par exemple que quand j'étais responsable de... Donc, au service national de la pastorale des jeunes et des vocations, j'ai expérimenté que de travailler pour la pastorale des vocations, sur la question des vocations, ça vient toucher forcément aussi votre propre vocation. Enfin, c'est quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas la même chose que de faire du marketing pour des savonnettes, dans le sens où on est… voilà, donc… mais quel que soit, je crois, le lieu de notre travail, que ce soit dans la vie professionnelle, en entreprise, dans l'enjeu pour chacun, c'est d'unifier finalement notre vie et les différentes dimensions de notre vie et d'articuler. Alors parfois, en fait, on peut croire, parce que je le vois aussi, on peut penser que c'est beaucoup plus simple de travailler dans l'Église parce que quelque part, le but est noble, entre guillemets, de servir le Christ, d'annoncer l'Évangile, et on pense que tout va être résolu. Mais en fait, non, parce que l'Église, elle est à la fois divine et humaine, elle a aussi, le péché la traverse aussi les personnes qui sont là, et donc les combats, les questions sont aussi là, donc il ne faut pas être naïf dans ce sens-là, et parfois c'est même encore plus difficile de vivre des conflits ou des difficultés, des questions de pouvoir qui sont aussi là, même si elles ne sont pas toujours nommées, dans un lieu comme l'Église, que dans un lieu comme l'entreprise, où finalement on sait que dans l'entreprise, ça fait partie de... Mais je dirais que quel que soit le lieu, le grand enjeu, c'est de discerner finalement comment l'esprit nous conduit et comment servir là où on est, en étant aussi conscient, qui est de toute façon là, dès qu'on veut servir le Christ et suivre le suivre et écouter l'esprit, on fait aussi l'expérience du combat spirituel, des manœuvres de l'ennemi, comme on peut les appeler. Ce matin, le pape François nous le rappelait, on le rencontrait pour les traditionnels vœux à la curie romaine, où il nous fait un discours. Il nous dit, il ne suffit pas de vouloir faire le bien pour que ça se fasse. En fait, l'ennemi est très subtil et malin. Et donc, il peut aussi vraiment essayer de nous prendre dans ses pièges, même quand on est dans un lieu où explicitement on annonce l'Évangile et on travaille pour le service des autres.
Justement, vous parliez d'Église marquée par le péché. J'ai souvent entendu dire que travailler au Vatican, c'était un peu le meilleur moyen de perdre la foi. Et puis en ce moment, on est quand même secoué dans l'Église de France en particulier par des nouvelles révélations sur les abus. Qu'est-ce qui vous fait tenir? C'est quoi vos recours dans ces temps-là?
En particulier deux choses, parce que c'est vrai hein, que en ce moment, alors en particulier dans l'Église de France, mais aussi dans bien des lieux et au Vatican aussi, on est confronté à ces dysfonctionnements, on va dire, ces abus et ce péché tragique et qui nous fait réaliser que voilà, il n'y a pas d'église idéale. Et c'est vrai que plus on avance, plus on découvre l'ampleur de tout ça, plus c'est effectivement, ça bouscule. Voilà, on ne peut pas rester indifférent, ça nous éprouve. Et alors, je dirais, moi, ce qui m'aide, il y a deux choses. C'est vraiment voilà, l'ancrage dans la foi, dans la prière, l'accompagnement spirituel, le partage avec d'autres. Et puis, l'autre chose qui est très importante, j'ai la chance par cette mission d'être vraiment en lien avec la diversité des églises locales, des églises particulières, dans les conférences épiscopales, les diocèses, de aussi beaucoup voyager, d'être aussi en lien avec la diversité de l'Église. Et voilà, l'Église, c'est pas que le Vatican ou c'est pas que des lieux institutionnels qui sont complexes, pas faciles. Et c'est aussi ça qui me fait tenir. Voilà, même au Vatican. Tous les jours dans la rue, je croise, j'échange avec mes amis de la rue. Finalement, ma communauté, elle est aussi en partie là. Certains ont pour moi des témoignages de foi, d'être là, de vivre dans la rue, en même temps de garder le sourire, d'échanger. Voilà, c'est aussi ça l'Église. L'Église, c'est la caritas qui sert les plus pauvres en bien des lieux. Il y a pas longtemps, j'ai eu la chance, j'étais en Turquie. Toute petite église catholique dans un pays musulman, mais avec en même temps de plus en plus de Turcs qui demandent le baptême. Voilà, de les rencontrer, d'échanger avec eux, de voir aussi comment l'Église, dans cette situation absolument horrible et tragique en Ukraine, les prêtres, les religieux, religieuses, les gens tiennent. Reste avec les gens, je dirais c'est aussi tout ça, tous ces actes souvent peu visibles, mais où l'Église se fait proche des gens de bien des manières. Et là, il y a des témoignages, voilà, il y a des témoignages extraordinaires. Et à chaque fois, moi, c'est ça qui me touche aussi et qui me porte dans ma mission. C'est tous ces témoins de l'Évangile. Au plus près sur le terrain, et finalement c'est là que se passent les choses les plus importantes. Alors je ne dis pas que le Vatican n'est pas important, hein, il y a un service à rendre là, mais il ne faut surtout pas le surévaluer. Je dirais l'Église, c'est d'abord vous et les gens, voilà, sur le terrain au quotidien, qui essayent de témoigner du Christ là où ils sont et de faire le bien.
Vous avez eu un parcours de pionnière quelque part dans l'Église. Vous avez pris des postes qui n'avaient jamais été occupés par des femmes auparavant, et en particulier le poste que vous occupez actuellement. Quelle est, selon vous, l'influence du fait d'être femme sur votre parcours? Alors, je sais bien, vous n'avez jamais été un homme, donc vous ne pouvez pas comparer, mais je veux dire, est-ce que vous sentez que l'expérience d'être femme a quelque chose à vous apporter dans vos missions?
Bon, c'est difficile à dire. J'aime pas forcément parler du spécifique féminin ou surtout pas du génie féminin. Enfin, comme s'il y avait une essence féminine, je crois pas. Maintenant, ce que je crois profondément, c'est que voilà, être homme ou être femme, c'est deux manières d'être. C'est-à-dire dans le sens, c'est deux regards sur le monde. Il y a une différence qui est là. J'aime bien parler d'une différence insaisissable. Et en même temps, je crois profondément, je dis souvent que la plus belle chose que Dieu ait créée, c'est de nous avoir créés hommes et femmes. Voilà. Égaux, mais différents. Et cette différence reste une forme de mystère, en fait, dans le sens où elle est insaisissable. Donc, à partir de là, ce que je dirais, c'est que d'être une femme dans l'Église, et en particulier dans des lieux institutionnels, comme je suis aujourd'hui au Vatican, où je l'ai été à la conférence des évêques, c'est et où pas seulement, mais je me retrouve quand même beaucoup à travailler avec des évêques, avec des prêtres. Du coup, c'est comme femme là, c'est mettre de l'altérité et c'est apporter une forme d'altérité. Et je pense aussi d'ailleurs que d'une certaine manière, la différence homme-femme, qui signifie cette altérité structurante et fondatrice, elle est un peu comme la matrice de toutes les différences. Voilà. Et la manière dont on va gérer cette différence homme-femme, elle va dire aussi beaucoup de la manière dont on peut gérer toute forme de différence, les différences de culture, de psychologie, d'âge. Voilà, c'est aussi tout ça qui joue dans les équipes, dans la manière dont on vit la mission. Et c'est sûr que comme femme et comme religieuse, peut-être l'expérience que j'ai faite, c'est que, puisque vous le soulignez, par exemple, à la conférence des évêques, ça avait toujours été un prêtre auparavant qui avait dirigé ce service national pour l'évangélisation des jeunes et pour les vocations. Là, j'ai été nommée sur un poste, une mission qui auparavant avait toujours été pour un évêque. En soi, j'apporte une différence et peut-être une autre manière un peu différente de se situer, puisque je ne suis pas prête, je ne suis pas claire. Donc, je suis femme, je suis laïque, dans le sens non clair, et religieuse. Et c'est toutes ces identités se tissent. Vraiment, pour moi, l'important, c'est ce que j'essaye vraiment de beaucoup souligner. Je pense que l'enjeu majeur pour le monde d'aujourd'hui, dans la société et dans l'Église, c'est comment être homme et femme ensemble, égaux, partenaires, mais aussi dans cette différence. Voilà. Et on voit bien que c'est pas que c'est pas si simple, mais qu'en même temps c'est fondamentalement une richesse. Et partout dans mon parcours, en particulier dans la pastorale des jeunes, j'ai pu voir, expérimenter combien il est toujours plus riche d'être une équipe avec des hommes et des femmes, prêtres, religieux, laïcs, aussi différents âges, que d'être simplement de mettre du même avec du même. Voilà, et je crois que c'est un des grands enjeux pour servir la mission dans le monde d'aujourd'hui. Il faut travailler davantage avec des équipes diversifiées.
Et justement, vous avez l'impression que dans votre mission actuelle, l'Église est ouverte à cette différence, à l'accueil de cette différence du féminin, mais comme vous le soulignez, l'accueil du féminin, c'est aussi l'accueil de l'altérité d'une façon générale.
Oui, dans le sens où, par exemple, si on parle concrètement là pour le synode, on a mis en place des commissions, une commission théologie, spiritualité, méthodologie et communication, avec des hommes et des femmes. Et pas seulement, l'autre attention qu'on a eue fortement, c'est aussi d'appeler des gens qui ne soient pas, parce que c'est facile à Rome, souvent, les commissions, on peut prendre que des Italiens sur place, mais voilà, d'inclure aussi la diversité des continents, des provenances culturelles. Je pense que c'est extrêmement important aussi aujourd'hui, voilà, surtout pour un service et une mission aussi note qui a dimension internationale. Et c'est vrai que si on pense, par exemple, qu'au Concile Vatican II, parce que le synode est quand même une forme de fruit du Concile, et on a été créé à la fin du Concile, au Concile Vatican II, les théologiens ont joué un rôle important avec les évêques, mais à l'époque, tous les théologiens, les experts, comme on les appelait, c'était des prêtres hommes. Aujourd'hui, dans notre commission théologie, il y a plus d'un tiers de femmes. Laïque, religieuse, et comme je le disais, de tous les continents. Le travail qu'on a fait pour écrire le document d'étape continentale, qui est le fruit, une forme de synthèse de toute la consultation synodale et donc de toutes les synthèses du monde entier. On a fait un processus pendant 12 jours ensemble de travail, discernement, prière pour écrire ce document. Voilà, avec un groupe qui était très diversifié, comme je à l'image des commissions, avec des femmes. Donc ça change. Voilà, aussi d'écrire ou de faire de la théologie ou de travailler avec des équipes où il y a des femmes. Et donc, Et c'est pas seulement nous. On a invité pour le synode à ce que tous les diocèses aient un référent coordinateur de la démarche synodale, si possible une équipe, et la plupart l'ont fait, une équipe avec justement des hommes et des femmes. On avait beaucoup insisté là-dessus. Et ça s'est fait dans les diocèses et au niveau des conférences épiscopales un peu partout, parfois pour la première fois. Mais c'est un apprentissage, voilà, qui fait que ça peut, et c'est normal, c'est ne pas toujours être facile, mais il faut continuer. Il y a un appel très urgent à renforcer, je dirais, la participation des femmes à tous les niveaux dans l'Église, et en particulier dans les processus de décision, dans les lieux de responsabilité.
Et vous parlez beaucoup de travail en équipe. Vous avez souligné que la transformation synodale de l'Église, c'est l'un des enjeux principaux pour l'Église d'aujourd'hui. Vous êtes optimiste sur cette question ? Vous voyez une transformation vers plus de synodalité, vers plus de coopération ?
Oui, alors je dirais pourquoi. Alors c'est plus, bon, je ne sais pas si optimiste est le bon mot, mais j'ai vraiment confiance parce que la synodalité a vraiment été discernée comme l'appel de Dieu pour l'Église d'aujourd'hui et pour l'Église du troisième millénaire. Voilà, à ce stade de la réception du Concile dans le monde tel qu'il est, comme le dit le pape François, la synodalité est le chemin pour l'Église du troisième millénaire. Et donc, c'est vraiment l'appel de Dieu pour l'Église d'aujourd'hui, pour être une Église synodale dans une dynamique d'écoute et de discernement. Et pour avoir beaucoup travaillé dans la pastorale des vocations, comme vous le soulignez, je disais souvent aux jeunes qui se posaient des questions, Dieu donne toujours la grâce pour répondre à l'appel qu'on reçoit. Alors, il faut poser un acte de liberté pour répondre à l'appel. Mais c'est très important parce que Dieu ne nous demande pas des choses impossibles. Il ne nous appelle pas, il ne va pas m'appeler au mariage ou à entrer dans la vie religieuse si c'est un chemin qui ne me convient pas et qui va me détruire. Vous voyez, Dieu nous appelle et nous donne la grâce au jour le jour de répondre à son appel, si c'est vraiment son appel. Et donc, c'est la même chose pour l'Église. Donc, c'est vraiment ça qui fonde principalement ma confiance. C'est que je suis sûre, même si on ne voit pas toujours très clair ou qu'on peut avoir des moments de doute, ça fait partie de tout chemin spirituel. Et donc, le chemin de transformation synodale, comme vous dites, qui est un chemin de conversion personnelle et communautaire, voilà, c'est normal. Comme tout chemin de transformation, ce n'est pas facile. Il y a des peurs, il y a des résistances, il y a des moments de consolation, il y a des moments de désolation. Il ne faut pas s'en effrayer. Mais si on est vraiment confiant que c'est pour répondre à l'appel de Dieu qui a été discerné, voilà, il y a des chemins qui vont s'ouvrir. Et ce qui renforce cette confiance, c'est qu'en fait, on voit déjà les fruits à l'œuvre sur le terrain. Voilà. Et c'est vrai que nous, on a la chance au secrétariat du synode vraiment de contempler l'esprit à l'œuvre de par le monde. C'est assez extraordinaire de tous les retours qu'on a. Bien sûr que dans un endroit précis, un diocèse, on peut ne pas voir, mais quand on a la chance d'avoir une vision assez globale, en fait, on voit que ça porte déjà du fruit, que l'esprit souffle et que d'ailleurs tous ceux qui ont expérimenté la méthode synodale, la consultation synodale, ce qu'ils nous ont dit, c'est unanime et c'est écrit dans le document, ça donne de la joie. Ils réalisent que c'est vraiment ça le chemin qu'il faut prendre et ils veulent continuer. Donc, je veux dire, cette transformation synodale, elle est vraiment déjà à l'œuvre et je pense qu'elle s'inscrit vraiment aujourd'hui partout dans l'Église et ça va continuer. Mais ça prend du temps et donc c'est vrai que le plus difficile, c'est d'apprendre vraiment la patience. Parce qu'on est dans des sociétés qui nous façonnent aussi de manière, avec un esprit très court terme, on veut une efficacité immédiate, etc. Or, ces processus de transformation, voilà, ce chemin de conversion et de réforme, c'est un travail d'une génération. c'est pas en 2 jours, en 3 jours, ni même en 2 ans ou 3 ans de synode. Mais il y a quelque chose qui est déjà à l'œuvre. Et c'est un processus qui se fait step by step, étape par étape. Donc, l'important, c'est toujours de faire un pas de plus à partir de là où on est.
Alors, en vous écoutant parler, je repense à beaucoup de témoignages de femmes, parce que comme vous savez, des femmes et un dieu, c'est aussi des retraites et des cercles de femmes. Et on entend souvent que les femmes ne se sentent pas partie prenante de l'Église. Moi-même, je dois dire que je ne me sens pas hyper concernée par le synode. J'ai l'impression que, notamment avec le rapport de la CIAZ, avec les nouvelles révélations là, récentes, je me dis qu'il y a quand même des choses, des réformes urgentes. Et donc, vous entendre dire que ça va prendre une génération, c'est dur pour moi à entendre. Et puis, je voudrais vous demander, en fait, quel conseil vous donneriez à un fidèle ou une fidèle lambda, un laïc, une laïque, pour justement sentir cette dynamique du synode et peut-être se laisser porter par elle, parce que c'est vrai que, en tout cas, moi, de ma petite paroisse dans laquelle je suis relativement engagée, mais j'ai aucun pouvoir de décision, je me sens impuissante, en fait. Et je sens pas forcément cette transformation synodale dont vous parlez à l'échelle globale.
Oui, alors je crois que ce qui est très, très important, il y a 2 choses. C'est, vous voyez, l'enjeu principal de la synodalité, c'est vraiment de vivre une co-responsabilité missionnaire et de réaliser que l'Église, c'est pas seulement les prêtres et les évêques, l'Église, c'est nous, c'est le peuple de Dieu dans son ensemble, c'est l'ensemble des baptisés, et que comme baptisés, on est tous appelés à porter la mission de l'Église et à marcher ensemble. Et à être acteur, finalement. Et donc, c'est comment, je pense, un premier enjeu, c'est comment on ne réduit pas l'Église simplement à un lieu, même si la paroisse est importante. Mais voilà ce que vous faites avec votre podcast. Je veux dire, c'est une manière de mettre en œuvre la co-responsabilité missionnaire et de mettre en œuvre votre vocation de baptiser. J'avais compris plus ou moins que vous étiez aussi dans une équipe MCC ou voilà.
Oui, oui, je veux dire, bien sûr, oui.
C'est l'Église, c'est l'Église, c'est la manière dont vous vivez. Je pense qu'il y a une forme de synodalité qui se vit dans une équipe MCC. Donc, alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aider la paroisse qui reste un lieu important à fonctionner de manière plus synodale. C'est vrai. Mais tous les baptisés n'ont pas vocation à être dans le conseil pastoral ou paroissial. C'est aussi la synodalité, ce n'est pas seulement une manière de vivre d'ailleurs l'Église ad intra, ça va avec une manière d'être l'Église dans le monde, en dialogue avec les autres, avec la dimension du dialogue interreligieux, du dialogue œcuménique, le dialogue avec le monde politique, avec le monde économique, c'est dans tous les documents du synode. Donc, je veux dire, vivre le synode et la synodalité, c'est aussi prendre sa part, comment vous vivez l'écoute, le dialogue, le discernement en entreprise, dans vos lieux d'engagement. Voilà, et je pense que ça, c'est... Et tous ces lieux-là aussi, comment se fait la conversion synodale du MCC? Je sais qu'il y a tout un processus en cours, et c'est bien, parce que c'est tous les lieux qui ont besoin d'avancer en synodalité. Voilà, et c'est l'université catholique, c'est... Et donc, ce que produit déjà le synode, on l'a vu, et qu'il faut continuer, c'est vraiment d'aider tous les baptisés à prendre conscience que le fait d'être baptisé et confirmé, nous donne une responsabilité. Il n'y a pas besoin de l'attendre. Il faut la prendre dans ce sens-là et discerner quels sont les charismes reçus qu'on doit mettre au service de l'Église pour servir l'Église, c'est toujours servir le monde. L'Église est par nature missionnaire. Voilà, et donc je pense que c'est cet enjeu-là aussi qu'il faut continuer. Et faire prendre conscience, en tout cas moi, plus comme vous, hein, plus je vois tous ces problèmes d'abus et plus ça réveille, en tout cas ça m'interroge et ça me fait prendre conscience de ma responsabilité et de l'enjeu d'éveiller tous les baptisés à leur responsabilité. C'est pas les évêques tout seuls ni les prêtres tout seuls qui pourront, et le pape le dit très clairement, la transformation ecclésiale et la lutte contre les abus ne pourra pas se faire sans le peuple de Dieu. Donc c'est ça que le synode doit continuer à animer, ce réveil de la responsabilité baptismale. Voilà, et chacun là où il est, on a toujours une possibilité d'action en fait.
Finalement, ce à quoi vous invitez, c'est un peu un changement de perspective, c'est se dire que l'Église, c'est pas seulement l'Église diocésaine et institutionnelle, et aussi effectivement soi-même s'appeler à sa propre responsabilité en quelque sorte. Là, il y a quelque chose peut-être qui est de l'ordre de la tentation du démon, de se constituer un peu en deux camps entre eux, c'est-à-dire l'institution, les prêtres, oui, les évêques et les fidèles.
Voilà, et c'est pour ça que moi, j'insiste beaucoup. En fait, si vraiment on comprend l'esprit de la synodalité, et on est d'abord, avant toute différence de vocation, on est d'abord tous des baptisés. Et dans des liens, alors je ne vais pas faire un cours d'ecclésiologie ici, mais ça nous met dans des liens d'interdépendance, on peut dire. Il n'y a pas de pasteur sans fidèle, il n'y a pas de fidèle sans pasteur. La vision de l'Église synodale, elle est basée sur une anthropologie relationnelle. On est dans une réciprocité, en fait. Donc, on ne peut pas, si vraiment on comprend ça, on ne peut pas parler de eux, les prêtres, les évêques, je ne sais pas qui, et nous. Non, on est d'abord, et d'ailleurs la synodalité d'une certaine manière, c'est passer du « je » J-E au « nous » N-O-S. C'est prendre en compte qu'on est un peuple en marche et qu'on est appelé à marcher ensemble. Alors bien sûr, il y a des différences, des tensions, mais on ne peut pas non plus faire l'Église sans les hommes ou sans les prêtres. Donc il nous faut trouver les moyens, et c'est ça l'enjeu de ce synode, d'essayer vraiment de marcher ensemble, et ça passe par l'écoute mutuelle. Voilà, et tout ce qui peut, le renforcement d'un dialogue, d'un discernement ensemble, et à chacun de prendre sa part. Mais c'est vrai que c'est pas un chemin facile, parce que la confrontation à la différence, elle est pas simple. Mais si vraiment on a foi et on veut vivre ça dans l'esprit, c'est pour ça que la synodalité, elle demande des attitudes spirituelles, de foi, d'humilité, de recherche de la vérité, on la possède pas tout seul, d'écoute, de dialogue, mais aussi avoir la liberté de parler et le courage de parler, le pape François le rappelle beaucoup, et en ayant foi que in fine, il nous faut trouver les chemins pour bâtir aussi davantage une culture du consensus, parce que c'est ça que produit un discernement ensemble.
Merci beaucoup pour ces éclairages. Est-ce que vous voulez dire quelque chose pour conclure ?
Que l'enjeu, ce n'est pas simplement de faire un synode, mais c'est de devenir un synode. Le pape François dit ça. Et que donc ce chemin, voilà, qui est le chemin de tout baptiser à la suite du Christ, il nous demande aussi une... Comme je le disais, c'est un chemin pascal. Voilà, c'est un chemin pascal parce que si on veut vraiment marcher avec tous, eh ben, il faut aussi laisser la place aux autres, mais en même temps, oser, et c'est ça peut-être que j'ai envie de dire aux femmes, voilà, oser déployer l'appel reçu, les charismes reçus pour le service des autres. Et on ne peut pas être, voilà, je pense qu'on voit bien qu'aujourd'hui, c'est un signe des temps, d'ailleurs, un appel urgent, cette question comment être hommes et femmes ensemble dans la société et dans l'Église. On est un peu, je crois, c'est l'heure des femmes aujourd'hui, et donc il faut aussi que les femmes prennent leur part et qu'on trouve les moyens de vivre ensemble et d'avancer ensemble dans notre maison commune.
prendre sa part sans attendre qu'on nous la donne, prendre ses responsabilités sans attendre qu'on nous confie des responsabilités, je pense que...
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je serai heureuse d'avoir vos avis, réactions et commentaires sur la page Facebook Des Femmes et un Dieu ou à l'adresse mail desfemmesetundieu@vivaldi.net.